bienvenue à l'épisode 54 de French Connection. Cette semaine, je suis avec Steve. Il faut qu'on enlève mute avant de parler.
Bonjour tout le monde.
Avec Vincent.
Salut.
Et avec Damien qui est de retour de vacances.
Salut tout le monde, bronzé en pleine forme et des kilomètres de vannes.
Ah, c'est merveilleux. Donc, cette semaine, je vais commencer avec les Shameless Plug. Québec Sec, le 23 août. Sujet encore à déterminer. Le 27 septembre avec ISACA pour la gouvernance et la gestion des TI au gouvernement du Québec. Le 2 et 3 novembre, c'est le ACFES, à ne pas manquer. Le 8 novembre, le CSAW à Valence. Et avril 2019, Secure, un nouvel événement de sécurité qu'on aura bien l'occasion de parler plus tard. Commençons avec la première, Hacking a Plane from the Ground.
Ben oui, merci Nicolas. Le Hacking a Plane from the Ground. Au dernier Black Hat aux États-Unis, il y a encore des recherchistes, on va dire des chercheurs qui ont venu avec l'idée qu'ils étaient capables de prendre contrôle de la partie infotainment de l'avion. Ça fait quelques années que ça a été déjà rapporté comme quoi qu'il y en avait plusieurs possibilités. Déjà là, il y en a qui se sont fait arrêter, il y en a qui ont dit que c'était une fausse histoire. Le DHS, l'année passée, ont mis un avion au bout du tarmac qui ont été capables de rentrer dedans. Donc, ce n'est plus un mythe, c'est un fait que les systèmes d'information à l'intérieur des avions sont capables d'être pris à contrôle à distance. Donc, on parle vraiment de l'interface Wi-Fi à partir de laquelle c'est pas sécuritaire et ils peuvent se connecter à travers l'antenne satellite. Ça laisse encore une fois le doute planer sur comment est-ce que les organisations laissent savoir qu'ils disent que l'environnement, elle est sécuritaire puis ils sont capables à ce moment-là de faire la protection qui s'impose. Mais cependant, à chaque fois, on n'est pas capable de faire la lumière complètement sur la vérité en arrière de ça. Donc, les organisations laissent entendre qu'ils vont faire le devoir, vont protéger le tout, mais en bout de ligne, c'est des dollars, c'est de l'investissement qu'ils doivent faire et eux fonctionnent au dollar. C'est rare qu'ils vont mettre l'argent nécessaire pour corriger, ils vont développer davantage un produit supplémentaire à remplacer pour prendre par la suite que de corriger un problème dans l'immédiat. Fait que donc, les systèmes infotainment demeurent vulnérables à ce jour et je ne pense pas qu'ils corrigent ça demain matin.
Non, de toute façon, ça coûte excessivement cher.
Oui, exactement.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un doué en informatique pour se rendre compte que tout ce matériel est connectable à distance. Juste un exemple que j'ai fait, moi, cet été, dans une compagnie aérienne qui m'envoyait du côté de Dubaï. C'est simple, avec mes enfants, j'ai tout simplement bloqué leur système de télévision, alors parce que j'aime bien les troller, et donc, du coup, ils ne pouvaient plus voir des films, mais ils ne pouvaient voir que des dessins animés. Eh bien, c'est simple. Ma fille a cliqué sur le bouton faisant appel au steward. Le steward n'a pas bougé pour venir voir les enfants. Il nous a expliqué qu'en fait, il avait une petite caméra qui permettait de voir si la demande était légitime et qu'à distance, il a pu remettre les chaînes de télévision et de cinéma à mes deux filles comme si de rien n'était. Donc déjà là, cette prise à distance se fait déjà par le personnel.
Puis comme tu dis, ça prend pas une grande connaissance. C'est encore là une simple exploration. Et on voit que la technologie est toujours incomplète pour dire que c'est supposé de faire des blocages ou empêcher des trucs. Donc, c'est ça qui, je trouve, qui est un petit peu dommageable un peu, puis ça laisse encore une fois un sentiment de fausse sécurité envers les gens.
Enchaînons avec le fait que le Power Grid aurait certains problèmes.
Ben Nick, c'est le Power Grid, comme on sait qu'aux États-Unis, ils mettent beaucoup d'emphase là-dessus, qui doit être protégé. Ça fait partie, c'est la pièce maîtresse de l'infrastructure essentielle. Et comme on est ici en Amérique du Nord, interconnecté de très près le Canada avec les États-Unis pour la distribution électrique, la question est très intéressante puisque j'ai sondé un peu le terrain en arrière-plan et pour pas dire en background, puis il n'y a pas beaucoup de gens dans l'industrie qui savent si Hydro-Québec est directement impliqué alors qu'on fournit pour le nord-est des États-Unis beaucoup de ports électriques. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans ce qu'on voulait amener pour la nouvelle, c'est que c'est un nouvel exercice qui prend forme et qui quand même se manifeste, multiplie, se métamorphose avec les années, qui s'appelle Liberty Eclipse, pour tester encore là l'idée si ça va faire en sorte que le grid électrique, si jamais il est attaqué avec une cyberattaque, peut survivre et comment récupérer. Il y a la semaine passée, pour ne pas dire deux semaines, il y a une simulation sur un un réseau de simulation qui a été fait, donc un honeypot, un honeynet, et que ça n'a pas pris grand-chose, ils ont découvert que ce n'est pas juste des états externes, donc des mouvements étatiques qui s'attaquent au réseau potentiel électrique, mais bien des états criminels qui ont commencé à vouloir s'intéresser à comprendre l'interaction, ou plutôt comment s'attaquer au grid électrique. Ce qui change un peu la donne, puis à ce moment-là, ça veut dire que, encore une fois, l'attaque peut venir de tout azimut, et ça, c'est fatigant à comprendre que, pour à ce moment-là, pas juste se protéger contre certains États avec un certain protocole qu'ils prennent toujours pour s'y prendre, mais bien n'importe qui avec n'importe quoi. Fait que ça va de soi de comprendre qu'on n'est plus non plus à l'abri de n'importe quelle attaque qui peut arriver, tout comme l'Ukraine l'ont vu. On sait que l'Ukraine s'est polarisée fort probablement avec qu'est-ce que l'élément russe fait dans ce coin-là du monde. Mais aujourd'hui, qui peut s'en prendre au power grid des Nord-Américains? Bien, c'est pas mal n'importe qui peut faire du tort à la population américaine et en même temps aux intérêts économiques de l'Amérique du Nord. Fait que ça va être intéressant de suivre et pour questionner comment Hydro-Québec entend suivre l'évolution de ces exercices-là et surtout y participer pour contribuer. Parce qu'on récemment, ils ont annoncé Hydro-Québec, si mon souvenir est bon, l'an dernier, qu'ils faisaient affaire avec une compagnie israélienne pour renforcer la sécurité de ces réseaux. Mais sachant aussi qu'il y a vraiment une belle séparation physique entre les opérations et l'administration, j'espère juste que ça va poursuivre et il n'y aura pas de branchement avec l'Internet comme bien des compagnies font des fois à travers le monde.
Donc, espérant que tout le volet cyber soit bien pris en charge, passons à la nouvelle suivante qui est en fond un lien avec la nouvelle que Vincent avait discutée il y a quelques semaines. Les centres commerciaux ont désactivé la reconnaissance faciale.
Oui, excuse-moi, je croyais que c'était pas... Ben oui, exactement. Revirement de situation avec les centres d'achat, ce qui était drôle de découvrir, c'est que au tout début, l'annonce officielle des centres d'achat Fairview-Pointe-Claire, des centres d'achat, pas juste Fairview-Pointe-Claire, mais bien de l'ensemble des centres d'achat au Canada, on dit qu'ils développaient la reconnaissance faciale, puis c'était juste pour documenter ceux qui passaient en avant des affiches et juste voir le flow, comme on dit, le flow de trafic là, qui était dans l'environnement. Or, Cadillac Fairview, ils ont reviré un peu le chapeau de bord. Ils se disent maintenant ouverts à participer aux enquêtes que l'Office de la vie privée d'Alberta et le Commissaire à la vie privée du Canada ont lancé pour être capable de comprendre un peu davantage et rassurer aussi surtout la population sur le fait que, bien, est-tu correct? Bien, on sait très bien, entre nous, on peut savoir que c'est pas trop éthique de pouvoir mettre une caméra puis sans dire à personne, documenter quoi que ce soit sur la vie des gens. Ça, c'est à voir l'encontre de l'essence même de la vie privée. Et après ça, cette enquête-là devrait démontrer que, bien, s'il devrait y avoir davantage de pratiques de caméras de reconnaissance faciale, bien, ça sert à quoi? Et voici les lignes directrices. Parce qu'ils ont fait un papier, là, 4 ans de ça, et il étalait dans ce papier-là, dans ce white paper, disant que voici la marche à suivre. Puis oui, comme une caméra de surveillance le fait dans un contexte de sécurité, les gens sont avertis qu'ils vont être filmés, mais dans un contexte de reconnaissance faciale commerciale, ça devrait être le cas, parce que autant que les gens sont traqués avec les cartes de fidélité, le Wi-Fi gratuit dans les entreprises, au même titre, la reconnaissance faciale, il faut qu'elle fasse l'objet d'un certain filtrage, puis à ce moment-là, que les gens sachent que ça fait partie du quotidien. Maintenant, on pourrait passer l'après-midi à discuter sur maintenant les gens ouvrent, déverrouillent le téléphone avec une reconnaissance faciale, ils vont peut-être même démarrer le véhicule bientôt avec cette reconnaissance faciale-là. Fait que c'est un enjeu qui est très actif, qui se déplace dans le quotidien, mais qu'il faut ramener en avant-plan sur l'essence de la vie privée. Parce que si je prends juste un exemple où la police chinoise maintenant se promène toujours avec des lunettes à reconnaissance faciale pour être capable de spotter les bandits dans une foule, ça laisse quoi à ce moment-là peser comme où maintenant sera la vie privée? Il va se falloir qu'on se promène avec des masques constamment ou bien là, si on a un masque, on est tout de suite un suspect. C'est tout ça que, à un moment donné, je commence à être un petit peu préoccupé sur la vague que ça va faire ici en Amérique du Nord puis jusqu'à quel point que on va devenir des gens encore libres de notre choix et libres de notre circulation. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs?
Ben surtout que la biométrie, qu'on le veuille ou non, est en train de rentrer tout doucement dans les mœurs. Tu as complètement raison hein, quand tu expliques qu'aujourd'hui, regardez nos ados, mais regardez aussi nous adultes, on nous propose d'ouvrir son téléphone simplement en faisant un joli sourire. Avec le nouvel iPhone, l'iPhone 10, on pouvait faire des émojis hein, avec son visage transformé en crotte, en je ne sais trop quel animal. Le problème, c'est que tout ça est en train de rentrer tout doucement et gentiment dans les mœurs. Je pense que les gens qui avaient l'intention que ça aille beaucoup plus vite ne s'attendaient pas à, on va dire, un tel frein intellectuel de beaucoup de gens. Mais depuis quelques années, certains sont déjà en train de travailler à savoir comment contrer cette reconnaissance faciale. Je prends juste le projet, je ne sais pas si vous vous souvenez du projet CV Dazzle, c'est un artiste américain, c'était Adam Harvey, H-A-R-V-E-Y, si je ne me trompe pas, qui travaillait sur les coiffures et les maquillages qui vont et qui devaient permettre de contrer cette cybersurveillance. Il avait tout simplement repris en fait, hein, les, on va dire, les marquages sur les bateaux pendant la guerre et il proposait des coiffures et des maquillages pour bloquer cette biométrie. Bon, je vous avoue qu'avoir des peintures bariolées sur le visage, ça risque de faire un petit peu tache. Mais lentement, mais sûrement, ça rentre dans les mœurs et je ne suis pas sûr que malheureusement, on puisse arrêter cette espèce de rouleau compresseur.
La question, est-ce que les gens veulent vraiment qu'on arrête ça? Parce qu'il y a des bénéfices et les gens sont très sensibles aux petits... gain qu'on a, on aime avoir des suggestions dans lesquelles les choses qu'on aime. On aime avoir des mails gratuits quand on donne toute notre information personnelle. Fait que, est-ce que le public est réellement informé des conséquences et des ramifications? Non.
Mais surtout, Nicolas, les gens ne sont pas à l'écoute. Ils veulent juste avoir encore là le gain. Ils sont attirés par ce gain, ce plus qu'ils vont avoir et ils font fi. Parce que les avertissements, je crois qu'à chaque programme, à chaque organisation, les conséquences sont illustrées, sont lues, sont présentées aux gens. Et les gens, je crois, que volontairement choisissent de ne pas les voir ou ne pas les croire. Et quand le pire arrive, c'est là que le bas blesse et que les gens se demandent pourquoi moi.
Ben, il est clair, hein, c'est que là, une fois qu'ils vont refiler leurs empreintes digitales, leur visage, plus toutes les informations qui sont collectées, rien que le fait d'utiliser un moteur de recherche, il sera malheureusement bien trop tard. Et on a oublié toutes les petites technologies qui sont en train de se mettre en place. Hein. Pour rappel, il y a quelques années, Facebook testait à Los Angeles et à San Francisco dans des boutiques la reconnaissance biométrique dans les boutiques. Une fois que je rentrais dans l'une des boutiques, je recevais une promotion sur mon téléphone. Maintenant, tout ça est en train de rentrer dans les mœurs. Pour rappel, un exemple aussi, c'est Apple qui a quand même rentré une invention hein, pour sa montre connectée, pour tout ce qui va être analyse de sang. Donc voilà, on est en train de rentrer tout doucement dans cet Internet du corps qui, je l'espère, et j'espère que c'est le même titre aussi, on ne se retrouvera pas un jour avec un film comme Bienvenue à Gattaca, bien à la porte de chez nous. Hein.
Ben, Gattaca n'est pas si loin que ça de nous tant qu'à moi, puis je viens de terminer le livre d'Homo Deus, puis mon Dieu, c'est troublant où on s'en va avec tout ça. Passons justement à d'autres éléments de reconnaissance, les assistants vocaux qui se jasent entre autres.
Alors oui, salut tout le monde, c'est trois assistants vocaux qui rentrent dans un bar. Ils commencent à parler, mais la conversation ne se termine jamais. Alors, voici une petite recette, là. Si vous voulez l'essayer, si vous avez du budget aussi également, là, que j'ai trouvé bien agréable à lire. Alors, ça va vous prendre un HomePod de Apple, ça va vous prendre un Alexa d'Amazon et puis ça va vous prendre un Google Home. Alors, bon, on va être réaliste, là. Qui va avoir ces trois bebelles-là dans la maison? J'ai aucune idée, mais moi, je les aurais les trois, mais bon. Écoutez, la première chose à faire, là, choisissez un ordre dans lequel vous voulez le faire. Je pense que l'ordre ici peut différer. Là, moi, je vais vous donner celui que j'ai vu. C'est donc le HomePod qui jase à Google, qui jase à Echo et la boucle recommence. Pour ce faire, il y a une petite phase de préparation. Vous allez devoir commencer par faire votre reconnaissance vocale avec Siri. Pour votre HomePod, il va falloir que Siri soit reconnu ensuite de ça par l'assistant Google et ainsi de suite. Alors, vous avez compris un petit peu l'astuce. Alors, ce qu'on fait, première des choses, dans votre outil rappel d'iOS sur votre iPhone, votre iPad, votre produit Apple, choisissez une journée où vous n'avez aucun rendez-vous et puis insérez un rendez-vous quelconque. Le rendez-vous, toutefois, doit s'écrire comme ceci. C'est « Hey Google ». Qu'est-ce qui est sur mon calendrier aujourd'hui? Ensuite de ça, sur Google, créez une entrée calendrier quelques heures un peu plus tard qui dit « Alexa, qu'est-ce que ma liste de choses à faire aujourd'hui? » Ensuite de ça, sur votre système Alexa d'Amazon, ajoutez une liste de tâches à faire qui dit « Hey Siri, lisez mes rappels. » Ensuite de ça, qu'est-ce que vous faites? Bien, vous faites le premier appel. Vous demandez à Siri qu'est-ce que vous avez dans la journée et la boucle commence. Vous chercherez comment arrêter tout ça si vous décidez de faire l'expérience, mais la façon, la manière la plus simple, c'est tout simplement de débrancher les appareils. Alors voilà.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour tout arrêter, eh bien, vous allez enlever les plombs hein, de votre compteur électrique, au moins vous êtes sûr qu'ils vont s'arrêter de tchatcher.
Ces assistants personnels. Et suivons avec certains problèmes avec des guichets automatiques.
Oui, écoutez, ça semble pas être la première fois que ça se fait. Toutefois, le 11 août dernier, il y a des guichets du Mouvement des Jardins, entre autres, des guichets automatiques à Montréal qui ont été exploités dans une vaste fraude mondiale. Alors, une banque indienne, la banque Cosmo, qui était visée par ce type d'attaque. Il y a d'autres guichets, des banques canadiennes qui auraient été également utilisées. La Sûreté du Québec, la GRC, travaille présentement là, sur ce dossier-là. Selon le porte-parole de la Banque Cosmo, les attaques auraient été commandées du Canada par un réseau de fraudeurs bien structuré. Le montant de la fraude dépasse 15 millions. Là, je rassure les clients du Mouvement des Jardins, entre autres, c'est pas leur compte bancaire qui était visé. C'est une exploitation des guichets automatiques, justement, pour perpétrer une fraude qui visait la Banque Cosmo. En moins de 2 heures, c'est 12 000 transactions qui ont été effectuées dans des guichets automatiques avec des cartes clonées ainsi que des logiciels malveillants. Paraîtrait que plusieurs guichets dispersés au Canada, du Canada à Hong Kong ainsi qu'en Inde, ont été utilisés. Le FBI semble être à l'affût. C'est la deuxième fois, paraîtrait-il, que ce type de fraude-là vise justement la Banque Cosmo. En juin dernier, ils se sont fait arnaquer 17 millions dans ce même type de fraude-là. Alors, achetez-vous des porte-monnaies en Faraday.
Moi, ce qui m'épatera toujours, c'est que tout cet argent, parce que là, on parle pas de quelques centaines de dollars hein, ou d'euros, on parle de millions. Mais ils en font quoi de tout cet argent? C'est pas possible. Il y a un moment, soit ils mangent trop, il y a un problème, non?
J'ai peut-être une idée. On a l'industrie du pot là, qui semble être très lucrative au Québec, là, au Canada. C'est peut-être une belle porte d'entrée pour des investisseurs.
Ouais, c'est quand même très étonnant parce que quand on s'amuse à calculer mis bout à bout tout cet argent qui est volé, je sais pas, ils en font des matelas, ils en font des murs de billets un peu à la Pablo Escobar parce que c'est quand même fou. Là aujourd'hui, on parle de milliards de dollars volés par des pirates informatiques et à un moment, ça va se voir et personne ne trouve ça plus étonnant de se dire que tiens, mon voisin est devenu milliardaire d'un coup, il a fait ça comment? Moi, ça m'épatera toujours, hein. C'est ce détournement d'argent, il y a un moment, il faut bien qu'il soit réinjecté quelque part. C'est ça qui est toujours très étonnant.
Et dans ce cas-ci, Damien, tu sais que c'est le groupe Lazarus là, qui est à la base responsable, en tout cas le premier suspect dans le vol de banque du Bangladesh de 81 millions, et aussi de l'attaque contre Sony en 2014. Fait que ça, c'est le premier suspect là, qui figure à date dans qu'est-ce qu'il aurait organisé et qui serait lié aux autres de près avec la Corée du Nord ou d'autres États un petit peu plus lugubres de cette façon-là. Il y a un point, je voulais soulever avec vous autres, messieurs. Moi, j'ai lu que les 12 000 transactions qui ont été perpétrées auraient été faites approuver par un système de switching qui aurait été mis en parallèle et que donc ces guichets automatiques-là auraient été redirigés pour être capables d'aller se faire approuver la transaction par cet équipement qui a été ajouté dans le transit. Avez-vous lu quelque chose
non, à ce sujet-là? Non, mais écoute, si c'est avéré, c'est un petit peu inquiétant. Alors que pour des transactions normalement qui devraient être sécurisées, l'approbation provienne d'un tiers de cette façon-là.
Bien, ça relève, en tout cas, ça remet en question justement l'intégrité de l'infrastructure, un peu comme qui est arrivé au Bangladesh. C'est un routeur de piètre qualité, là, qui n'est pas un routeur, mais un firewall, qui a été pris d'assaut, puis qui a été converti, puis qui ont pu faire ce qu'ils voulaient avec pour être capable de faire rediriger, rerouter vraiment la transaction financière. Fait que c'est un peu ça que... Moi, ça ne me surprend pas que ça arrive dans ces coins du monde-là où que la vérification d'intégrité des réseaux financiers tant qu'informatiques, c'est difficile à faire tellement que c'est disparate et qu'il y en a un peu partout. Mieux, en tout cas, qu'ici qu'on peut trouver en Amérique du Nord. Fait que, ouais, ça met un peu de doute après ça sur la mondialisation des banques.
Enchaînons avec la prochaine. Qui est des mots de passe projet fantôme.
Oui, alors j'ai découvert là, cette semaine, on va dire, un de ces multiples projets lancés par je ne sais trop qui, en tout cas par des internautes qui trouvent en tout cas certainement un intérêt. C'est quoi? C'est le projet fantôme. C'est quoi? C'est un portail qui vous permet de récupérer le mot de passe appartenant à un mail. Alors c'est simple, hein, ils ont récupéré l'une de ces nombreuses bases de données diffusées sur les internets, hein, qui ont été piratées. Ils récupèrent ces bases de données, les mettent dans un moteur de recherche, et voilà, le problème, c'est que ce Ghost Project, eh bien, vous rentrez votre mail, peut-être le mail de votre voisin, de votre patron, et si ce dernier n'a pas corrigé ses mots de passe, que en plus ce mail et ce mot de passe se trouvaient dans des bases de données comme celle de LinkedIn, de Dailymotion, de je ne sais trop qui encore ayant été piraté, hein, depuis des années, eh bien, vous avez accès donc à son fameux précieux, à son fameux mot de passe, et donc vous pouvez intégrer éventuellement son réseau social s'il n'a pas changé le mot de passe dédié, ses mails et compagnie. Ce genre de projet, il y en a partout, il y en a de plus en plus. Alors il y a des jolis comme celui de Troy Hunter, hein, bon, ok, super, mais il fait exactement pareil, il récupère des bases de données et il le propose sous forme de service, sauf que là, c'est de l'open bar avec les noms, les prénoms, sachant qu'il existe d'autres ghost projects, où là, on vous propose l'IP, on vous propose éventuellement les adresses physiques, les numéros de téléphone. On en parlait tout à l'heure, hein, mais se faire pirater sa base de données, aujourd'hui, c'est se retrouver dans ce genre de boutique. Il y en a de plus en plus. Certains gagnent énormément d'argent avec ça. Vous savez, un abonnement de 2 euros par jour pour pouvoir accéder aux données de votre voisin, si ces données ont été piratées, va intéresser n'importe qui. Donc voilà, c'est ce Ghost Project qui ressemble un petit peu aussi au projet de ce moteur de recherche qui s'est appelé Grey Hat Warfare. Alors c'est quoi lui ? Même principe, c'est un moteur de recherche qui n'a qu'une seule mission. Il a référencé les stockages cloud Amazon S3 mal configurés. Et en gros, on se retrouve avec des milliards de données personnelles accessibles, normalement stockées dans des Amazon S3 sécurisées, en tout cas correctement configurées. Sauf que là, comme c'est mal configuré, eh bien du coup, ce moteur de recherche vous permet donc de récupérer n'importe quoi. Et vous tapez par exemple carte nationale d'identité, passeport, document bancaire, et là, il vous balance eh bien, tous les clouds mal configurés avec les données eh bien, de gens qui ne pensaient pas se retrouver comme ça aussi facilement accessible. Voilà, c'est aujourd'hui ça, ce genre d'outils qu'on trouve un peu partout sur les réseaux, que ce soit sur le web, dans le deep web, dans le darknet, dans le black market. Il y a un vrai business derrière. Et on a beau avoir des lois comme le RGPD, comme ce qui arrive au Canada, comme on a un petit peu à droite, à gauche.